La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en ce troisième jour de notre série consacrée jusqu'à demain à l'auteur entre autres du portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. Oscar Wilde, à qui le Petit Palais à Paris consacre une exposition essentiellement biographique, mais dans laquelle on peut découvrir également des tableaux que Wilde a commenté en tant que critique d'art, et notamment le Saint-Sébastien de Guido Reni, que l'écrivain considérait comme son idéal de beauté. Car la beauté intéresse en particulier les dandys comme Oscar Wilde, comme nous l'a expliqué celui qui en est d'expert, Daniel Salvatore Schiffer, lors de notre première émission. C'était lundi dernier. Hier, Charles Danzig est revenu sur cette exposition du Petit Palais et nous a surtout raconté le martyre de l'écrivain emprisonné, on le sait, pour homosexualité dans une prison qu'il a brisée et où il n'était plus du tout question pour lui d'être à la hauteur de sa porcelaine bleue, pour reprendre son bon mot, mais simplement de tenter de survivre moralement. Il n'est pas sûr qu'il y soit parvenu. Enfin, demain, nous serons en compagnie d'Alain Jumeau qui parlera du théâtre de Wilde et de Pascal Aquien qui va lire et commenter des textes de l'écrivain en clôture de cette série. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Michel Crépu, je recevrai Anatole Tomczak qui vient de retraduire le portrait de Dorian Gray dans une version inconnue et non censurée, vous l'entendrez. Mais pour commencer, je reçois le théoricien de la littérature, historien et essayiste Tsvetan Todorov, qui a consacré à Wilde un long chapitre dans son livre « Les aventuriers de l'absolu ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Plus on étudie la vie et la littérature, plus on acquiert la conviction que derrière toute création merveilleuse se trouve la personne humaine, et que ce n'est pas l'époque qui fait l'homme, mais l'homme qui crée son époque. Une époque qui n'a pas de critique est soit une époque qui voit l'art immobile, stagné, devenir hiératique et se confiner à la reproduction de modèles canoniques, soit une époque qui ne connaît aucune forme d'art. Il y a eu de grandes époques de critique qui n'ont pas correspondu à des époques de création artistique, au sens courant de l'expression, des époques au cours desquelles l'esprit humain a cherché à mettre de l'ordre dans les trésors de ses collections, à séparer l'or de l'argent et l'argent du plomb, à faire l'inventaire de ses joyaux et à nommer ses perles. Mais il n'y a jamais eu de grandes époques de création artistique qui n'aient pas été aussi une grande époque critique. Car c'est la faculté critique qui invente les formes nouvelles. La création tend à se répéter. C'est à l'instinct critique que nous devons l'apparition de toutes les nouvelles écoles, tous les nouveaux moules dans lesquels l'art vient se couler. Mais la critique est sans conteste un art en soi. Et tout comme la création artistique implique l'exercice de la faculté critique, sans laquelle il serait d'ailleurs tout simplement impossible d'affirmer qu'elle existe, ainsi la critique est-elle vraiment créatrice au sens le plus noble du mot. La critique est, en fait, tout à la fois créatrice et indépendante.
Bonjour, Tsvetan Todorov.
Bonjour.
Vous êtes donc historien de la littérature, parlez des livres et votre profession, et j'imagine que vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce que disait Oscar Wilde par la voix de Guillaume Gallienne dans cet extrait de son livre « Le critique comme artiste ». Quand il affirme que être critique, c'est être créateur.
Disons que c'est une vision assez positive de la critique, ce que Wilde a été, mais on peut lui faire confiance.
Vous-même, vous avez commencé votre carrière en étudiant les formalistes russes. C'était à Sofia, en Bulgarie, dans les années 50. Les formalistes russes qui touchaient exclusivement à la matérialité du texte, à ses formes linguistiques, et cela vous a permis, en vous occupant d'objets centenaires idéologiques, d'échapper à la censure du régime. Donc, il vous a fallu, vous aussi, un peu comme Oscar Wilde, jouer avec les hypocrisies et vous en défaire.
Jouer avec les hypocrisies, mais bien que notre régime fût bien plus répressif que celui de l'Angleterre victorienne à laquelle était confronté Wilde, moi je n'ai jamais abouti à la prison, donc son destin à lui était infiniment plus tragique que le mien. J'étais un jeune homme, un étudiant, dans les années 60 d'ailleurs, vous m'avez accordé une décennie de plus. Et je n'attirais pas l'attention de grand monde, mes intérêts restaient purement privés. En fait, j'ai découvert vraiment les formalistes russes en arrivant à Paris.
Mais est-ce que Wilde, de l'autre côté du rideau de fer, était considéré? Est-ce qu'il était un peu étudié ou alors au contraire pas du tout?
Oui, oui, il était considéré, il existait, il avait connu son heure de gloire. Tolstoï a polémiqué contre lui dans son célèbre « Qu'est-ce que l'art ?» et on n'avait pas oublié les aphorismes de Wilde. Il était joué sur scène. Non, les classiques avaient bonne presse en Bulgarie et dans le monde des démocraties populaires.
Et puis vous êtes donc arrivé en France et là vous avez élargi au fur et à mesure votre champ d'intérêt à la psychologie, à l'anthropologie, à l'histoire, à tel point que bien des années plus tard vous avez publié chez Robert Laffont, c'était en 2006 exactement, Les aventuriers de l'absolu. Et dans ce livre vous avez choisi d'interroger un projet existentiel.
Exactement, j'avais le sentiment que tout être humain, mais des auteurs comme Wilde en particulier, disposaient d'un projet de vie. Il y avait une forme que prenait leur existence, et cette forme était liée à un projet conscient. Mais j'ai un double commentaire à faire là-dessus. D'une part, je trouve que le roman de Oscar Wilde, comparé même au roman de Dorian Gray, est un roman remarquable.
Vous voulez dire le roman de sa vie?
Le roman de sa vie, oui, le roman que constitue sa vie.
C'est ce qu'il voulait?
C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a réussi involontairement, car ce n'était pas du tout la vie qu'il souhaitait pour lui. Mais c'est une vie bouleversante et il a su l'exprimer dans les moindres détails, dans les moindres nuances. Sauf qu'il l'exprimait comme un personnage et non plus comme un auteur. Et d'autre part, bien sûr, la vie de Wilde a été brisée par la prison. Et c'est une sorte d'énigme, en tout cas de grande question, pour quiconque s'intéresse à son existence et à son œuvre, que de comprendre pourquoi la prison a été cette épreuve insurmontable.
Et nous allons précisément y venir. Mais ce projet existentiel auquel vous vous êtes intéressé dans ce livre, c'est celui qui consiste à mettre sa vie au service de la beauté. Et vous interrogez la trajectoire de Wilde en même temps, ou plutôt à côté, de celle de Rilke et de Marina Tsetaeva. Quelle est la particularité de Wilde parmi ces trois auteurs que vous avez choisis?
Je dirais que Wilde réalise la forme la plus centrale, classique, de ce projet de vie placé sous le signe de l'esthétisme, placé sous le signe du beau. Parce qu'on la trouve chez d'autres auteurs, mais elle prend des formes plus singulières. Et chez Wilde, il y avait aussi deux formes. L'une qui était un peu superficielle, qu'il reprenait à des essaims, à Huysmans, à l'air du temps, si vous voulez, qui consistait à s'entourer d'objets beaux, de bijoux, de dorures, de beaux tissus, de toutes sortes d'éléments de beauté. Mais très rapidement, il est assez passé outre, au-delà de cette première identification avec le projet de beauté, et s'est plutôt consacré à une seconde forme où la beauté naît de l'épanouissement du soi, où c'est la possibilité pour chacun d'atteindre une forme de plénitude des potentialités dont il dispose.
Et alors, l'esthétisme, c'est une éviction, en l'occurrence, du bien par le beau, écrivez-vous. Est-ce que c'est moralement répréhensible, cette éviction de ce qui est bien par ce qui est, j'ai envie de dire, seulement beau?
Oh, seulement beau, le beau, c'est une affaire infinie.
Le beau, c'est aussi bien que le bien?
Oui, parfois. En tous les cas, ça dépend beaucoup du sens précis qu'on met dans ces mots. Vous savez, la célèbre formule « la beauté sauvera le monde » vient de Dostoïevski, ou plutôt du prince Mishkin dans « L'Idiot ». Et elle caractérise quelqu'un qui n'est pas du tout un admirateur des jolis tissus, des bouquets de fleurs et des porcelaines de Chine seulement, mais qui sait découvrir cette beauté dans l'existence. Et si l'on conçoit la beauté de cette manière, la beauté englobe tout. C'est une sorte de souverain bien qui... Et le but de toute existence.
Mais Wilde, on lui a reproché, notamment dans la première acception du beau dont vous parlez, de s'intéresser trop aux belles porcelaines bleues, justement, de s'intéresser trop aux objets. Est-ce que il n'y a pas un jugement moral aussi sur l'esthète qu'était Oscar Wilde?
Bien sûr. Face à la morale officielle, globale, évidemment, il n'est pas suffisant de s'intéresser qu'au beau. Mais je pense que chez Wilde, il y a presque immédiatement les deux sens de quête de beauté. Cette beauté un peu superficielle des apparences, mais aussitôt et en même temps, une beauté intérieure.
Cette vie dans le beau dont vous parlez, Tsvetan Todorov, à propos d'Oscar Wilde, on peut la rapprocher de Dorian Gray lui-même, qui lui-même vit dans la beauté, dans l'esthétisme.
Mais comme vous savez, Wilde, en commentant dans une préface son roman, disait qu'il s'était réparti entre trois personnages. Et pas seulement entre un seul. Dorian Gray, le personnage cette fois-ci, était celui pour qui on le prenait. Lord Henry était celui qu'il aurait voulu être. Et c'est le peintre, le créateur, dans lequel il se croyait trouver son portrait. Donc ces modalités sont déjà suffisamment distinctes. Je ne pense pas que... Lui, Wilde, se réduisit à la seule personnalité de Dorian Gray. Il est présent un peu chez tous, et du reste, Dorian Gray est un roman de peut-être pas d'une impasse, mais en tout cas des embûches semées sur ce chemin.
Donc vous disiez tout à l'heure que dans un premier temps, Wilde s'intéresse à une figure du beau qui est classique et que dans un deuxième temps, il va s'intéresser à une figure du beau qui est quoi plus nietzschéenne peut-être?
Plus psychologique, oui, la proximité avec Nietzsche que j'indique mais qui saute aux yeux, mais aussi avec un courant de pensée de cette époque. Ibsen, le théâtre de l'époque, véhicule des idées de ce genre, être soi-même est perçu comme un idéal que l'individu doit poursuivre dans la mesure de ses moyens, bien sûr. Et je crois que De cette manière, il élargit beaucoup la voie du contact avec le beau. Mais il n'est pas sûr que Wilde lui-même ait toujours su obéir à ce programme-là, accomplir ce programme-là. Il le poursuit, mais en même temps, il en poursuit d'autres. Le festoyer avec les panthères, comme il disait, ça ne revenait pas à chercher le beau dans son existence. Il était plutôt sensible à l'atmosphère de danger, de risque qu'il prenait, et ce risque lui a coûté très cher.
C'est l'intensité de la vie qui est belle, vivre intensément.
Ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que l'idée du beau, d'une belle existence, est plus sociable que l'idée d'intensité de la vie. On peut trouver une grande intensité dans le fait d'accomplir un meurtre. Je ne pense pas qu'il illustre bien l'accomplissement de la beauté.
Et pourtant, Dorian Gray est un meurtrier.
Oui, Dorian. Mais justement, Dorian Gray n'est pas une perfection dans le genre. Il est une des voies, une des modalités que peut prendre cette aspiration. Comme Walter Pater l'avait remarqué à l'époque, dans son compte-rendu, Pater, qui était le maître de Wilde depuis Oxford, il avait remarqué que les personnages, et notamment Dorian Gray, couper pas mal de dimensions de l'existence pour la faire entrer dans le moule de sa compréhension de la beauté.
Vous pensez, oui. Allez-y.
Non, je veux dire qu'il y avait des dimensions autres aussi dans cette pratique.
Et vous pensez, c'est une question un peu naïve et qui mériterait évidemment qu'on y mette beaucoup de guillemets, mais vous pensez qu'il condamne Dorian Gray, Oscar Wilde, en tant que personne?
Mais ce n'est pas aussi simple, il ne le condamne pas, mais il en montre aussi, il ne le met pas non plus, il ne le donne pas non plus un exemple à suivre. Il se répartit entre les trois personnages dans lesquels il se reconnaît. Chacun a sa variante de la beauté, mais aussi un élément tragique.
Au fond, la beauté chez Oscar Wilde, Tsvetan Todorov, elle est inséparable de l'idée d'individualité. La beauté, elle ne peut émerger, selon lui, que par la volonté d'un individu, que par une certaine forme d'individualisme.
Absolument, et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'exemple presque le plus pur qu'il veut nous donner de cette individualité, c'est Jésus-Christ, puisqu'il le perçoit comme celui qui a rompu avec toutes les règles sociales et a affirmé une voie pour laquelle il n'avait que sa conviction intérieure. Donc, c'était en rupture avec tous, mais c'était en même temps l'accomplissement du socialisme, selon Wilde. Donc nous voyons là qu'il avait des accointances avec des doctrines et des sensibilités assez lointaines à première vue.
Oui, il faisait un petit peu son propre mélange. Je vous propose d'écouter ce que disait à ce sujet son petit-fils Merlin Hollande.
L'identification de Wilde avec Christ, c'est quand même,
exagéré.
Oui, exagéré, c'est peut-être poliment dit. Christ, dont il parle, qui était le premier artiste du monde, pour ainsi dire, l'artiste souffrant pour son art, ça me rend quand même mal à l'aise de voir Wilde se vantant d'être le Christ moderne de l'Angleterre à l'époque. Par contre, il faut dire que j'ai parfois dit qu'il était bel et bien crucifié par la société anglaise, la société victorienne, ce qui est tout à fait vrai. Ils ont pris Wilde en tant que Scapegoat, c'est le bouc émissaire, voilà. Parce que il représentait pour eux quelque chose qui était indéfensible. Il était le rebelle, il représentait la décadence, il représentait tout ce qui n'était pas anglais.
Le premier artiste du monde, tel était Jésus-Christ, selon Oscar Wilde.
Oui, c'est une vision très singulière du Christ, bien sûr. Ce n'est qu'en ce sens qu'on peut comprendre ce rapprochement. Je pense que la société anglaise, à la fois détestait Wilde, mais elle ne détestait pas vraiment le contenu de ses actes autant qu'elle le prétendait. C'était son hypocrisie qui trouvait libre, se donnait libre cours. Et je dirais que pour moi, oui, non plus, je ne dirais pas que Wilde était le Jésus-Christ moderne, mais plutôt je le vois dans le rôle de Marsyas, le rival malheureux d'Apollon qui finit mal, comme on le sait, en particulier par un célèbre tableau du Titien, car il a subi la punition pour avoir chanté si bien. Il a été puni pour son aspiration à la beauté.
Et Wilde avait une très belle voix, comme on le sait, comme on nous l'a rapporté. Vous avez commencé cet entretien tout à l'heure de Stéphane Todorov en posant une question. Je vous ai dit qu'on y répondrait un peu plus tard. Et cette question, c'était: comment se fait-il que la prison ait été fatale à Oscar Wilde? Pourquoi vous posez-vous cette question-là?
C'est une question intéressante. Je trouve que Wilde, comme je le raconte dans le livre, ne pensait pas que la prison lui serait aussi fatale. Il pensait qu'il en sortirait la tête haute et qu'il pourrait continuer d'écrire. Il y avait aussi parmi ses amis plusieurs qui croyaient que cette expérience nouvelle et violente, bien entendu, lui donnerait matière d'un livre encore plus intéressant et plus profond que les précédents.
Un peu comme Truman Capote, qui n'est pas allé en prison, mais qui a fait l'expérience de la prison à travers ses personnages de 200 Froid, finalement s'en est retrouvé changé et peut-être agrandi. Est-ce que c'était ça l'idée sous-jacente, que finalement, par le choc des contraires, il allait sortir une grande œuvre?
Je pense qu'il y avait aussi l'idée qui avait été illustrée précédemment par un auteur comme Dostoïevski, qui était envoyé au bagne, qui y était resté pendant des années, et qui était entré un écrivain de talent. Il avait publié Les Pauvres Gens, des textes marquants, mais après sa sortie du bagne, il est devenu le génie que nous connaissons. Et pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi cela n'a pas pu avoir lieu pour Wilde? Pourquoi, à la suite de la prison, il n'a écrit pour l'essentiel que la ballade de la prison de Reading? Vous me demandez la réponse?
S'il vous plaît, oui.
Non, mais je ne suis pas sûr de la connaître, mais je porte quelques éléments de précision. Il me semblait que, dans sa propre théorie de lui-même et de sa voix, il y avait certains points aveugles, et notamment la place que jouait l'amour dans ce théâtre, et la forme de l'amour qu'il privilégie, qui est un amour sacrificiel, d'une part, et d'autre part, la place de la renommée, de la reconnaissance publique, que Wilde semblait parfois méprisé ou considéré comme peu de choses, et qui s'est avéré essentiel aussi pour lui, de sorte que une fois condamné publiquement, cela représentait une difficulté quasi insurmontable. Je rappelle aussi le fait qu'il n'a pas cherché à s'exiler à la veille de son arrestation, alors qu'il aurait pu, on le lui proposait, et qu'à la même époque, un Zola qui était menacé par l'arrestation à Paris s'est enfui en Angleterre, fuyant la censure française chez les Anglais, mais pour des affaires politiques et non de mœurs, donc chacun censurait un domaine différent. Et Zola n'a pas souffert d'avoir subi les coups de la censure, bien au contraire, cela a servi sa gloire. Donc, l'énigme reste, on peut la commenter diversement, mais je pense que c'est un nœud central de l'existence de Wilde.
Est-ce que, selon vous, Tsvetan Todorov, quand il sort de prison après y avoir passé 2 ans, il pense encore qu'il va pouvoir écrire de nouveau de grandes œuvres? Est-ce que c'est au fond en sortant qu'il se rend compte qu'il est plus seul dehors encore qu'il n'était à l'intérieur de la prison, ou avait-il déjà finalement perdu sa substance et sa volonté de vie, son envie de vivre en prison?
Il y avait quelque chose de brisé en lui dès la prison, et il le dit dans certaines lettres, donc avant la sortie. Mais pour l'essentiel, il croyait encore pendant l'été qui a suivi, pendant son installation sur la côte nord-française, en face de l'Angleterre, il croyait qu'il pouvait y arriver. Ensuite, il a cru que la faute en était au climat nordique, qu'il suffisait d'aller à Naples et d'inviter Bosi avec lui. Bosi, c'était son amant qui l'a entraîné un peu dans cette voie du procès qu'il a perdu.
Mais alors là, c'est une grande naïveté. Enfin, c'est une suite de grandes naïvetés.
C'est une naïveté, mais c'est un amour. Comme tout De Profundis le raconte, cette longue lettre adressée à Bosi, qui lui explique en long et en large que tout est de sa faute, et qui est en fait une déclaration d'amour. L'amour suit des voies que la raison ne connaît pas trop bien.
Ce qui a changé peut-être aussi en prison de Tsvetan Todorov, c'est le rapport d'Oscar Wilde à l'autobiographie.
Wilde était hostile à toute intervention de l'autobiographie dans le texte. Il disait à Gide, mon cher, n'oubliez jamais que la littérature ne s'écrit pas à la première personne. Il faut pas mélanger les secrets de l'intimité avec le produit de l'imagination. Cependant, là, c'était tout le monde s'attendait de le voir tirer un nouvel essor, précisément de cette expérience. Et comme il le reconnaissait lui-même, il n'était pas fait pour cette littérature-là. Ces étincelantes comédies ne racontent pas sa propre vie. Ce ne sont pas des confessions.
Et pourtant, la balade de la geôle de Reading, est-ce que ce n'est pas autobiographique d'une certaine façon?
C'est une variation supplémentaire autour du thème « On tue ce que l'on aime », sur lequel Wilde était déjà revenu de nombreuses fois précédemment. Et c'est un poème impressionnant, mais il doit peut-être plus à Coleridge et à la tradition littéraire qu'à l'expérience spécifique de Wilde en prison. Il y a une histoire, il y a le cas particulier qu'elle relate, mais elle est nourrie de traditions littéraires et rhétoriques.
Vous n'avez pas le sentiment qu'il a regretté, et ce sera ma dernière question, à un moment donné, ce poème?
Oh, je ne pense pas que Wilde était un homme à se torturer par des regrets trop approfondis.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est Anne Todorov, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, nous allons accueillir Anatole Tomsak. Mais tout de suite, je ne vous le présente pas, car on ne le présente plus. C'est Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française, qui vient pour notre séquence en compagnie des revues. Bonjour Michel.
Bonjour.
Êtes-vous waldien, Michel ?
Eh bien, si je suis conséquent dans mon waldisme, je vous dirais que non, bien sûr, je ne suis pas waldien. Mais
et pourtant, vous avez une belle cravate. Vous avez toujours de très belles cravates, Michel.
Mais bien sûr, j'ai une très très grande admiration pour Wilde. Et j'étais très intéressé, je l'ai appris, je remercie Tsvetan Todorov de m'apprendre que Walter Pater avait été le professeur de Wilde à Oxford. Et Pater a écrit un livre absolument extraordinaire, Marius l'Épicurien, qui est un livre vraiment un des plus beaux livres que je connaisse. Et je suis émerveillé de voir que Pater est d'une certaine façon à l'origine de Wilde.
Oui, effectivement, c'était son professeur. Oui. Mais il se sentait un petit peu exposé, un peu trop exposé par ce disciple flamboyant.
Oui, je l'imagine volontiers.
Alors Michel, au sommaire de la NRF qui sort là juste aujourd'hui, ça date oui. De ce matin, un texte étonnant de Pierre Michon, c'est à la mode, sur Tintin.
Oui, en effet, surprise du chef. Michon, on était en contact depuis un bon moment avec cette idée.
C'est qui le chef? C'est Michon ou c'est vous, en fait? J'ai pas compris.
Oh, c'est la maison qui permet que ce genre de choses se produisent, en fait. Et la maison Gallimard. Et Pierre Michon avait envie d'écrire quelque chose dans la NRF, dans la nouvelle NRF. Et tout à coup, la question Tintin est arrivée sur le tapis à la faveur de cette exposition qui se tient actuellement au Grand Palais. Et la question posée par cette sorte d'énigme qu'est la créature Tintin, à la fois proche de l'humain et en même temps monstrueuse, par un certain côté. Si on examine, il n'est même pas nécessaire de prendre une loupe, mais d'examiner comme ça froidement qui est Tintin graphiquement, on est en face d'un petit monstre.
Et Pierre Michon le trouve monstrueux ?
Non, c'est plus retors que ça, c'est plus intéressant au fond. Et du coup ça a débouché sur un texte que vous pouvez lire maintenant dans la revue.
Oui, qu'on va se précipiter, qu'on va faire tout de suite. Alors, un entretien également dans la Nouvelle Revue Française, tout à fait autre chose, avec Adam Gopnik. Adam Gopnik, c'est le chroniqueur du New Yorker qui a vécu d'ailleurs 4 ou 5 années, je crois,
oui,
à Paris.
Il était en poste, il était correspondant du New Yorker dans les années 90. Et c'est un des piliers de cette revue que tout le monde a envie d'imiter, sauf la NRF. Bien sûr. Et il était de passage à Paris, ce qui a été l'occasion d'évoquer avec lui certaines grandes ombres maintenant qui ont quitté la scène, soit définitivement comme Updike, qui est mort, ou comme Philippe Roth, qui a dit qu'il arrêtait d'écrire, mais je me suis laissé dire récemment qu'il écrivait des livres pour enfants avec une petite fille de son voisinage.
Oui, exactement. Philippe Ross, à qui nous consacrerons notre semaine prochaine. Ah. Est-ce qu'il vous parle plutôt de la France ou est-ce qu'il vous parle plutôt des États-Unis?
Les deux. Mais c'est vrai que l'idée était de scruter un peu le nouveau paysage de la littérature américaine avec lui. Donc c'est quand même le tropisme reste new-yorkais.
Et puis, dernier sujet, c'est celui qu'on peut trouver sur votre blog, nrf.fr, et il porte sur la correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot.
Oui, qui a été pour moi une, je dirais pas une révélation, n'exagérons rien, mais en tout cas, l'existence d'un texte, en réalité, de quelque chose que je pourrais presque appeler une œuvre, qui est d'une très grande beauté. Très très grande beauté. Alors on a la voix, c'est une correspondance à une voix, donc c'est pas vraiment une correspondance, on n'a pas les réponses on n'a pas les retours de d'Anne Pajot, mais les lettres de Mitterrand sont d'une très très grande...
Il y en a une qui vous a en particulier ému ou intéressé ?
Non, pas une en particulier, mais c'est l'ensemble qui dessine un tissu, qui fait exister un certain paysage. C'est très très étonnant, vraiment.
Merci beaucoup Michel, tout cela et d'autres réjouissances à retrouver donc dans les colonnes de la Nouvelle Revue Française. De la Compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes rejoints à présent par Anatole Tomczak qui vient de traduire une version inédite du portrait de Dorian Gray pour Grasset. C'est dans la collection Les Cahiers Rouges, traduction qui n'a pas encore donné lieu à une lecture pour la radio comme celle de Jean Gattegno, dont voici un extrait.
On entendit un cri et une chute. Le cri était si terrible et si pathétique que les domestiques s'éveillèrent d'effroi et sortirent de leur chambre. Ils frappèrent, mais on ne répondit pas. Ils appelèrent, le silence était total. Enfin, après avoir sans succès tenté d'enfoncer la porte, ils montèrent sur le toit et sautèrent sur le balcon. Les fenêtres cédèrent aisément. Lorsqu'ils pénétrèrent, ils virent accroché au mur un splendide portrait de leur maître, tel qu'ils l'avaient vu le jour même, dans toute la splendeur de sa jeunesse et de sa beauté. Sur le parquet, gisait le cadavre d'un homme en habit de soirée, un couteau planté dans le cœur. Le visage était flétri, ridé, hideux. Ce ne fut qu'à l'examen de ses bagues qu'ils purent identifier le mort.
Dénouement du portrait de Dorian Gray, interprété en 1995 par Jacques Serré, dans une traduction qui n'est donc pas la vôtre. Anatole Tomczak, bonjour.
Bonjour.
Vous en pensez quoi de cette traduction ?
Ah bah elle est fantastique, c'est la traduction Folio, donc elle est très très bien, bien sûr.
Donc ça ne peut pas être la vôtre, puisque vous aviez 3 ans au moment où cette lecture a été enregistrée. Vous êtes né en 1992, ce qui est donc très jeune.
Oui.
Vous avez choisi de traduire un roman dont le thème est la valeur suprême que représente la jeunesse face au ravage du temps.
C'est vrai. On me l'a proposé surtout, plus que je ne l'ai choisi, mais je me suis empressé d'accepter. C'est un roman fantastique, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'était, ouais.
On lit de la même façon ce livre à 24 ans et à 70 ans, selon vous ?
Probablement. En plus, c'était pas la première fois que je le lisais, c'est pas la première fois que je le découvrais. Donc en réalité, même si je suis encore jeune, finalement, là, j'y revenais déjà avec déjà maturité, je crois. C'était pas au fond, je l'avais découvert encore plus jeune. Donc,
quel moment? Vous vous souvenez de votre première impression de lecteur?
Oui, je pense que c'était, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Et c'est vrai que ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'en fait, justement, le roman tourne en permanence autour d'un vide, autour d'un non-dit. Dorian Gray précisément n'a pas de sexualité, pour parler clairement, et même si évidemment Wilde n'était pas fou et qu'il restait prudent, en fait dans la première version, donc celle qu'il avait soumise au Lippincott's Monthly Magazine, qui était le magazine américain où le roman avait été publié la première fois, Wilde était beaucoup plus explicite en réalité. Et, ouais, beaucoup plus explicite. Ouais.
Donc au fond, à 14 ans, vous avez senti qu'il manquait des pages à ce livre.
Non, mais c'est vrai qu'on voit bien que rien n'est dit en fait. C'est vrai, oui, on voit bien que rien n'est dit en réalité. Et on se demande en permanence quand est-ce que les choses vont arriver. Et justement, le roman crée une attente qui est... constitutif de toute l'atmosphère de Dorian Gray, mais c'est vrai que dans la première version, il y a quand même des choses plus explicites, plus directes.
Alors cette première version, parlons-en, puisque c'est tout l'intérêt de cette nouvelle traduction que vous publiez donc au Cahier Rouge. Elle a d'abord paru dans cette revue américaine que vous venez de mentionner, le Lippincott's Monthly Magazine.
Tout à fait, c'était un magazine, une revue mensuelle littéraire américaine, qui était publié conjointement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle était dirigée par un homme qui s'appelait Joseph Marshall Stoddart, donc qui avait ses bureaux à Philadelphie. Et Stoddart admirait beaucoup Oscar Wilde. Il l'avait rencontré en janvier 82, quand Wilde arrivait à New York pour entamer sa tournée de conférences sur l'art aux États-Unis.
Donc c'est vraiment la tournée de conférences qui marque le début de cette histoire de publication alors.
Tout à fait, tout à fait. Stoddart rencontre Wilde à ce moment-là. Je pense qu'il avait déjà dû lire ses poèmes. Il l'aimait beaucoup et tout ça va se concrétiser 7 ans plus tard, à l'été 89. Le même Stoddart est de passage à Londres. Il vient précisément négocier en fait la distribution de son magazine en Grande-Bretagne, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque. Et il en profite pour dîner avec deux des écrivains anglais qu'il admire le plus, Arthur Conan Doyle et Oscar Wilde. Et il va tous les deux leur commander un roman pour sa revue. Arthur Conan Doyle va donner Le Signe des Quatre, qui est la deuxième aventure de Sherlock Holmes, et Oscar Wilde va donner Le Portrait de Dorian Gray. Voilà.
Vous comprenez qu'il ait aimé ces deux écrivains-là en particulier?
Stoddart, en tout cas, on peut, parce que si Stoddart est celui qui est le premier à censurer Dorian Gray, il aimait quand même Wilde et si je puis dire, il aimait son genre parce que il savait très bien, je veux dire, il l'a commandé, il l'a employé en conscience. Il savait très bien qui est-ce qu'il employait. Et surtout, le Leaping Cots était publié notamment les auteurs de ce qu'on appelait l'Erotic School, qui était quelque chose qui a été oublié depuis, qui était un petit groupement d'auteurs américains qui publiaient non pas des histoires qu'on dirait érotiques aujourd'hui, mais qui étaient sentimentales et souvent avec des choses hors mariage. Et donc, il y cite ce qui était déjà le problème à l'époque et qui était très inspiré des esthètes anglais, donc en fait de Wilde. Donc bon, Stoddart savait très bien, bon, il aimait Wilde en conscience, et qu'il puisse aimer Conan Doyle, bon, je veux dire, il dirigeait surtout un magazine, et en réalité, il avait surtout des considérations, et c'est bien normal, il avait des considérations commerciales, surtout, ouais.
Donc, dans ce livre, Le Portrait de Dorian Gray, qui est publié dans le magazine, on le publie dans une forme qui est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, ou du moins pas tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. On peut dire d'abord que c'est une forme qui est plus courte.
Tout à fait, plus courte, plus primitive aussi, pourrait-on dire, mais en même temps, plus transgressive.
Pourquoi primitive ?
Parce que c'est en fait la première version, donc bah, cette version plus courte, et c'est vrai que souvent la seconde version, qui correspond en fait à la parution en volume, en 1891, l'année suivante, cette version est en général désignée comme augmentée et définitive. Mais vous parliez hier du procès en diffamation que Wilde avait intenté au marquis de Queensberry avec Charles Danzig, et l'avocat de Queensberry, pendant ce procès, on le sait, a utilisé le portrait de Dorian Gray comme une pièce à conviction, quasiment, pour prouver l'homosexualité d'Oscar Wilde. Et lui va utiliser la version Leaping Cots et il se référera à la seconde version, non pas comme à la version augmentée, mais comme à la version expurgée. Ce qui veut bien dire que cette première version est plus primitive parce que antérieure, mais en même temps plus scandaleuse.
Alors, on y enlève tout de même 500 mots avant de le publier dans ce magazine-là.
C'est ça, c'est-à-dire que bon, Wilde va envoyer son manuscrit à Stoddart 8 mois après la commande. Déjà, il est très en retard, évidemment. Et Stoddart reçoit le manuscrit et il est très embêté parce qu'à la fois il est ébloui par ce qu'il lit et en même temps il est convaincu que va y avoir un vrai problème à la publication parce qu'il lit trop de choses qui lui paraissent pas convenables à imprimer, scabreuses. C'est moins une question de sa sensibilité personnelle en réalité qu'une crainte et des conséquences judiciaires et des conséquences commerciales.
Donc qu'est-ce qui est retiré finalement alors de ce livre, parce que ce qu'on a lu n'est donc pas ce qui a été prévu finalement par Oscar Wilde.
C'est ça. Alors la censure bon au premier chef vise le contenu homosexuel. Ça c'est très clair. C'est-à-dire bon ce qui est très frappant c'est au chapitre 7 alors de ma traduction qui correspond au chapitre 9 de la version que tout le monde connaît, en fait, Basile, le peintre du portrait, déclare sa flamme à Dorian Gray. Et dans la seconde version, tout ça en fait est rendu très flou dans une espèce d'admiration platonicienne d'un artiste pour son modèle.
Je reconnais avoir conçu pour toi un amour fou, extravagant, irrationnel. Ça, c'est ça, ce qui a été entre autres
tout à fait
coupé.
Tout à fait. Il dit ça. Il dit même. Je reconnais avoir conçu pour toi des sentiments bien plus tendres que ceux qu'un homme devrait normalement avoir pour un autre homme, pour un ami. Il dit je n'ai jamais aimé aucune femme. D'une certaine manière, je me l'explique pas, mais c'est comme ça. Et toi, je t'ai aimé d'un amour fou, extravagant, irrationnel. Ce qui veut dire quand même que l'homosexualité était, explicite dans la première version et pas seulement latente et allusive comme dans la deuxième version.
Tout comme a été éliminée la description que fait Basile de la villégiature de Dorian.
Oui, voilà. Alors après, il y a plein de petits de caviardages ponctuels. Effectivement, à un moment, Basile dit à Dorian ta maison qui s'appelle Selby Royal. Il suffit de dire qu'un jeune homme va passer du temps dans ta maison pour que tout le monde se mette à glousser et à ricaner. Il y avait plein de petites choses comme ça, effectivement, qui déjà à l'époque étaient scandaleuses.
La seule façon de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Si l'on y résiste, l'âme défaille de trop désirer ce qu'elle s'est refusé, de trop convoiter ce que ses lois monstrueuses ont rendu monstrueux et illicite. Ce n'est ni la volonté ni le désir qui gouvernent notre vie. La vie est une question de nerfs, de fibres, de cellules lentement formées où la pensée se cache, où la passion blottit ses rêves. En vain pensez-vous les braver, et vous croyez-vous fort. Telle tonalité dans une chambre, ou dans un ciel matinal, tel parfum autrefois bien cher et qui nous rapporte de subtils souvenirs, tel vers d'un poème oublié qu'on vient de relire, telle phrase d'un morceau de musique qu'on ne jouait plus depuis longtemps, sachez-le bien, Dorian, ce sont des impressions de ce genre qui décident notre vie.
Stan Todorov, que vous inspire la découverte, ça fait depuis 2011 qu'on le sait, je crois, du caviardage très précoce du portrait de Dorian Gray.
Si j'ai bien compris, il y a trois versions.
Vous avez très bien compris, c'est ça.
Non, pas deux.
C'est ça.
Celle qu'a écrite Wilde,
exactement.
Celle qu'a publié César, et celle que nous connaissons,
c'est tout à fait
connaissions
ça.
Aujourd'hui.
C'est tout à fait ça.
Est-ce que vous savez si Wilde a donné son approbation pour les...
Eh bien, on sait précisément que non. Justement, en fait, cette censure a été faite non seulement sans le consentement de Wilde, mais en plus sans même qu'il le sache, et en fait dans son dos, puisque le jour même où la rédaction en chef du magazine américain décide de la censure... Le jour même, Stoddart, le directeur, écrit à Wilde pour lui dire « Votre roman, monsieur, est fantastique, tout le monde à la rédaction l'a adoré, nous allons le publier. » Point. Et à aucun moment, il ne lui parle de cette censure qui se fait en fait à son insu. Et il y a en fait fort à parier que Wilde a découvert cette censure, comme tout le monde, en ouvrant son propre exemplaire du magazine.
Et du coup, ça permet de faire une archéologie du texte et de comprendre ce que Wilde a changé et comment finalement son écriture s'est modifiée, comment la structure du texte s'est modifiée. Vous pensez d'ailleurs que c'est un meilleur texte qui a été publié d'abord en magazine que celui qui a été publié en volume, Anatole Tomsak?
C'est-à-dire que la seconde version, la version volume, contient quand même 6 chapitres de plus, donc ça fait 6 chapitres de plus de Wilde. Donc ça fait 6 chapitres
plus de Wilde, toujours mieux.
Voilà, ça fait 6 chapitres de plus de plaisir. Donc la seconde version a évidemment beaucoup de mérite et sans doute est-elle capitale. La version que nous publions chez Grasset ne la remplace pas, mais elle la complète de manière très intéressante, et c'est vrai que elle donne vraiment une autre couleur au roman. C'est-à-dire même au-delà de la censure, dans le contenu homosexuel, il y a même un traitement de Dorian Gray lui-même à la fin qui est différent, puisque dans la première version, en fait, Dorian Gray est moins uniformément monstrueux, puisque à la fin, face au portrait, il a un moment en fait de rédemption, de renoncement. Alors et on a tellement accusé Wilde en fait de ne pas assez ouvertement prendre ses distances vis-à-vis de son personnage, qu'il a dû dans la seconde version le rendre totalement et donc platement monstrueux. En fait, dans la première version, il est plus humain, plus épais, plus ambigu.
Svetlana Todorov.
Je serais curieux, oui, je ne connais pas les variantes. Je trouve qu'elles trouveraient bien leur place aujourd'hui dans les appendices de l'édition standard. Mais je n'avais pour ma part aucun doute quant à la relation homosexuelle rapportée par le roman. Les relations de, les sentiments de Basile était suffisamment indiqué. Je dirais que cette manière très indirecte de le suggérer n'était pas moins éloquente. Et
donc il aurait gagné finalement à être resserré, selon vous, de Svetlana Todorov? Finalement,
c'est
à être plus dans le mystère.
C'est difficile de porter des jugements aussi tranchés. Mais je pense que le roman n'a pas beaucoup perdu, parce que Wilde l'avait exprimer cette présence par toutes sortes d'éléments de son récit, autre que la désignation directe de ce qui était en train de se jouer.
Oui, quand même, vous aviez remarqué qu'il y avait une ambiguïté entre ces deux personnages.
Voilà, évidemment, et avant moi, en fait, toute la société victorienne, puisque le roman, évidemment, même censuré, n'a pas manqué d'attirer les ennuis qu'on sait à Oscar Wilde.
Alors, il faut quand même préciser que Stoddart n'a pas seulement censuré l'amour homosexuel dans ce roman, il a censuré plus largement aussi les amours hétérosexuels.
Oui, parce qu'en fait, ce qui l'inquiétait était le caractère illicite de ces relations. Donc évidemment, toutes les relations homosexuelles tombaient là-dessous, mais en réalité, toutes les relations hétérosexuelles hors mariage. Et il y en a beaucoup, en fait, dans Dorian Gray, puisque Dorian n'est jamais marié. Bon, il est fiancé à un moment au début, mais après, il séduit tout un tas de personnes, hommes et femmes. Et donc, déjà, ça, c'était trop. Et donc, Stoddart, notamment, a enlevé toutes les mentions du mot maîtresse quand Dorian parle donc de Sybil Vane d'abord et après de Etty Merton. Voilà, parce que ça l'inquiétait déjà beaucoup.
Alors vous racontez aussi dans cette préface, Anatole Tomsak, le contexte législatif qui entoure un petit peu cette période victorienne, et notamment il y a une anecdote assez amusante que vous pouvez nous raconter peut-être rapidement pour terminer cette émission.
Sur le comment a été voté, voilà, bah, en fait, il existait tout un appareil répressif à l'époque en Angleterre, et notamment il y avait cette loi votée en 90 ou en 85, et donc en fait au départ, les députés se réunissaient pour parler d'un problème purement hétérosexuel, qui était le proxénétisme sauvage dans l'est de Londres, qui réduisait en esclavage toutes les jeunes filles de la classe ouvrière.
D'autant que Jack l'Éventreur était paru 2 ans auparavant seulement.
C'est ça, c'est-à-dire que Jack l'Éventreur venait de sévissait. Il y avait vraiment toute une paranoïa, c'est vrai, qui entourait le sujet de la sexualité en général. Il y avait vraiment une peur autour de ça. Et donc finalement, on se met à donc voter une loi pour ça. Et alors que le vote va avoir lieu, ça fait 11 heures qu'on délibère, il y a un député qui s'appelle Henri Labouchère.
Souvenez-vous de ce nom.
Voilà,
exact. C'est un nom français d'ailleurs, c'est bizarre.
Un nom français, mais pourtant il était anglais, puisqu'il était, il connaissait Wilde en plus, il se connaissait socialement, je veux dire. Et voilà, et donc ce Labouchère propose, in extremis, de en plus condamner les relations entre hommes. Et voilà comment est né l'amendement qui plus tard allait envoyer Oscar Wilde au bagne.
Exactement. Merci beaucoup Anatole Tomsak.
Merci.
Je rappelle que votre nouvelle traduction du portrait de Dorian Gray vient de sortir chez Grasset. Et pour terminer cette édition, je vous propose de retrouver, comme chaque jour, des poèmes lus par Jacques Bonafé.
Bonjour, retour au bois dormant de Gérard Massé avec qui nous passons la semaine, sachant, je le rappelle, qu'à la mi-novembre se déroule un colloque international autour de ses livres à Grenoble. Le vent est à la prose. Page 174. Esprit frappeur habitué aux mauvais rêves, de quel peuple élu sommes-nous les mauvais anges ou les singes avec nos horoscopes et nos blasphèmes et nos déménagements dans l'au-delà pour échapper à la peur ? La vérité au fond du puits, nous vaticinons dans le vide et dansons autour des voyelles, jusqu'à tomber comme des mouches qui se prenaient pour des derviches. Culbutés du même coup, les saints qui lévitaient en rêvant de marcher sur les eaux et l'angelot qui se présentait à la porte accompagné de son faux frère. Des siècles d'arrogance pour finir comme des porcs, avec des oreilles absolument modernes et sourdes absolument. Plus besoin de chanter, le ricanement suffit, car le vent est à la prose et nous sommes guéris de l'Orient. Dans un dernier effort, nous chasserons l'été comme on chassait les mouches, et le serpent qui s'enroule dans le nom de la poésie aura l'éternité pour digérer ses proies. La grenouille aussi grosse que le bœuf, l'albatros et le coq de combat, le dragon ailé que poussent les nuages. C'est ainsi que la poésie tomba dans la prose, et mon château théâtral dans le troisième dessous, dit Gérard de Nerval, cité par Gérard Massé. Promesse, tour et prestige aux éditions Gallimard. Les fonds sous-marins que je regarde la nuit dans l'aquarium éclairé qu'est la télévision ressemblent à la peinture d'un maître flamand qui mélangea les ailes et les nageoires, qui mit des poissons dans le ciel et des crabes dans le jardin des délices. Quant aux baleines qui s'échouent sur nos plages à cause de nos ondes et de nos sonars, leur boussole affolée ne comprend plus ce qui se passe là-haut, sur le plancher des vaches, où le vent rapportait jadis avec l'écho la plainte de Jonas et les jurons d'Akab. Faire le mort dans un combat imaginaire, se relever comme au théâtre et mourir encore, ou faire semblant de dormir pour ne pas avoir à parler. J'ai été mime dans mon enfance et je continue à jouer les mêmes rôles dans d'autres décors. Gisant qui se souvient de ses rêves et dans leur eau troublée voit s'épanouir un poème en forme de lotus. Il faut remonter à la surface pour avoir la force de cueillir la fleur et procéder comme chez les anciens morts au rituel de l'ouverture de la bouche.
Jacques Bonafé, qui lit toute cette semaine des textes de Gérard Massé. Merci encore à vous deux, Anatole Tomsak et Tsétan Todorov, d'être venus nous parler d'Oscar Wilde aujourd'hui. Votre ouvrage, Tsétan Todorov, Les Aventuriers de l'Absolu, est toujours disponible chez Robert Laffont. Et puis donc, le portrait de Dorian Gray, non censuré, c'est au Cahier Rouge, chez Grasset. Cette émission a été réalisée par Christine Diger. À la console, il y avait Dophar Guérine. Et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, dernier temps de notre semaine consacrée à Oscar Wilde, Alain Jumeau viendra nous parler du théâtre de Wilde et en particulier de sa pièce Un mari idéal. Et Pascal Akin commentera des extraits de textes du grand Irlandais. Mais tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec La méthode scientifique par Nicolas Martin.